Chapitre 38. Une apparition. Lupo Nero apparut soudainement entre les branches du saule pleureur. Personne ne l'avait vu ou entendu arriver, comme si le tronc s'était ouvert pour le laisser passer.
« Ne bougez pas !»
ordonna l'enfant sauvage.
« Ne bougez surtout pas !»
Tous les ados cessèrent immédiatement de frapper dans leurs mains et de scander son nom. Tous, qu'ils soient coincés sur la passerelle tombée sur le lac gelé ou à l'abri sur les rives, retinrent leur souffle. Un éclair traversa le ciel blanc, pailleté de l'incessante averse de flocons. Une pierre siffla au-dessus de leur tête. Les plus attentifs remarquèrent qu'elle était reliée à une longue corde de chanvre tressée. Le lourd projectile, lancé par Lupo Nero, fit trois fois le tour de l'arbre le plus proche de la passerelle, et la corde s'y accrocha comme par magie. L'enfant sauvage tira pour l'attendre au maximum, et l'enroula sur le tronc du saule où il était perché, en faisant lui-même plusieurs fois le tour avec une agilité de trapéziste. Une ligne de vie courait désormais entre les deux rives du lac, amarrée à hauteur d'homme.
« Attrapez la corde !»
cria Lupo Nero.
« Sans la lâcher ! Au pire, si la glace cède, vous vous mouillerez les pieds, mais vous atteindrez la rive !»
Tous les ados statufiés sur le lac gelé s'empressèrent de refermer leurs mains sur le câble de chanvre. La glace se fissura un peu plus sous leurs pas, mais leur masse, ainsi reportée sur la corde, pesait beaucoup moins lourd. Ils avancèrent, à la force des bras, sautillant presque sur des blocs de verglas qui se détachaient tels des morceaux de banquise. Leurs pieds, leurs chevilles, leurs genoux étaient trempés, comme pris dans un étau de glace, mais en moins d'une minute, ils avaient tous rejoint la terre ferme, sains et saufs. Tous, sauf Augénor. L'ado handicapé était toujours coincé sur le troisième chariot. L'évacuation générale par la corde tendue avait agrandi les fissures sur la surface gelée, et le chariot s'enfonçait de plus en plus vite dans le lac. Le niveau de l'eau avait presque atteint les pieds morts d'Augénor. Impossible pour lui de marcher, ni même de s'appuyer sur ses jambes. Impossible d'échapper à la fonte de la glace en s'aidant de la corde tendue par Lupo Nero. Qui aurait le courage de l'aider? Par quel moyen le sortir de ce piège mortel?
« Attrape-moi !»
lui lança Lupo Nero. L'enfant sauvage sauta dans le vide. Un bond prodigieux, et au moment où il allait s'écraser sur la surface du lac, il lança tout son corps en avant, à la manière d'un sauteur en longueur, propulsé par la longue branche de saule qu'il tenait des deux poings. Il atterrit sur le chariot à moitié enfoncé dans l'eau et s'accroupit à côté d'Augénor sans lâcher sa liane.
Tes pieds sont incapables de te porter, mais personne n'a plus de force que toi dans les bras. Accroche-toi !
Augénor avait compris. Il coinça sa canne entre ses jambes. Leurs quatre mains s'agrippèrent à la branche du saule. Ils tirèrent dessus autant qu'ils le purent, pour l'attendre au maximum, puis, dans un même élan, relâchèrent leurs efforts alors que Lupo Nero poussait de toutes ses forces sur ses jambes. Les deux ados, accrochés à la liane, s'envolèrent pour un vol de quelques mètres jusqu'à la rive opposée. Jean d'Arc et Wayne s'étaient préparés à réceptionner Augénor, alors que Lupo Nero, par un nouveau saut de singe, alla se percher sur l'une des plus hautes branches du saule. Moins d'une minute plus tard, les trois derniers chariots s'enfonçaient dans le lac. Les bâches blanches se remplirent d'abord d'eau, telles des montgolfières trop gonflées, mais au lieu de s'envoler, entraînées par le poids de leur chargement, elles coulèrent en quelques instants. La glace se referma dans les secondes qui suivirent, et le lac redevint lisse et brillant, comme s'il n'avait jamais été brisé. Valère observa un long moment la surface gelée, espérant peut-être apercevoir une ombre sous la couche verglacée. Puis, se rendant compte qu'il venait d'échapper au pire et que c'était sur eux que la mâchoire de glace aurait pu se refermer, il se mit à applaudir doucement. Il semblait avoir oublié la neige, le froid, les flocons, les tableaux, la nourriture et les instruments perdus au fond du lac. Lorsque les autres ados frappèrent eux aussi dans leurs mains, l'un d'eux se mit à crier
« Lupo ! Lupo ! »
Tous reprirent, si heureux d'être vivants. Rien d'autre ne comptait.
« Lupo ! Lupo ! Lupo ! Lupo !»
tous applaudir à en faire trembler la forêt, à en faire exploser le lac gelé en une pluie de glaçons, à en crever les nuages pour qu'il neige deux fois plus encore. Puis, petit à petit, l'euphorie retomba. Ils comprirent qu'Augénor voulait parler. Ils étaient persuadés que le grand cerf s'apprêtait à ne prononcer qu'un seul mot, en leur nom à tous. « Merci ». Ils se trompaient. Augénor et Louponero se regardaient fixement, donnant l'impression de s'évaluer mutuellement, ou plus exactement, de se défier. Le grand cerf au pied du lac et l'enfant loup perché dans son arbre. L'ado handicapé fut le premier à baisser les yeux, visage fermé. Était-il vexé d'avoir été pris en flagrant délit d'erreur de stratégie? Louponero avait eu raison, il les avait prévenus, jamais il n'aurait dû s'engager sur la passerelle au-dessus du lac gelé. Mais même si Augénor était contrarié d'avoir été pris en défaut, la moindre des politesses aurait été de remercier Louponero. L'enfant sauvage était revenu lui sauver la vie. Il se serait déjà noyé au fond du lac, sans lui. Augénor ne lui adressa pourtant aucun sourire, ne lui accorda aucun signe de gratitude. Assis sur la rive, il se tourna vers les ados du château et du tipi réunis et se contenta de lancer d'une voix forte qui avait retrouvé toute son autorité.
« Nous repartons. Nous devons être arrivés au second château avant la nuit. »
Alix, Sabi, Zizo, Akan et Mordelia, toujours acculés devant le lit du fleuve, virent d'abord les premiers chiens attaquer Bill. Ils virent le garçon lâcher sa torche, puis, avec une force de taureau, repousser deux premiers molosses sans se soucier des morsures sur ses bras. Un coup de poing, un coup de pied, les chiens sauvages les plus audacieux reculèrent, mais malgré son courage, Bill battit en retraite en direction du quai. Quitte à mourir dévoré, il voulait que ce soit aux côtés de Mordelia. Il voulait la protéger jusqu'au bout. Il ne voulait pas laisser à ce traître d'Akan le droit de vivre ses derniers instants dans ses bras. Sans même échanger la moindre parole, ils se rejoignirent. Akan prit la main de Sabi, Zizo celle d'Alix. Bill souleva Mordelia et la porta dans ses bras. Elle ne protesta pas. Trois couples. Personne ne se serait aimé autant qu'eux. Personne ne se serait aimé aussi brièvement qu'eux. Leur vie s'arrêtait là. Leur chair, leur sang, leurs os, mêlés pour l'éternité. À moins qu'ils ne décident de ne pas servir de dernier repas, de refuser cette fin atroce, d'en choisir une pire encore. Ce fut Sabi qui fit le premier pas.
« Je suis désolée, »
fit-elle en observant les chiens.
« Je n'ai pas envie de servir de lollipop à ces toutous !»
Elle tira la main d'Akan qui se laissa faire. Le fleuve coulait 2 mètres plus bas. S'il faisait un pas de plus, il tombait. Il ne survivrait pas plus d'une minute dans l'eau glacée avant de couler. Ce serait une belle fin. Une belle histoire dont personne n'entendrait jamais parler.
« On aurait pu avoir de beaux bébés !»
murmura Sabi en admirant une dernière fois son grand amoureux. Akan n'ajouta rien. Il acceptait son destin.
« Non !»
cria Zizo.
« Non !»
Il était déjà trop tard.
« Non !»
cria plus fort encore Alix à s'en déchirer les poumons.
« Non ! Regardez !»
Une vision hallucinante venait de percer les nuages, plus haut même que les nuages, comme si un beau d'une taille démesurée les traversait. Et au-dessus du ciel de coton, aussi incroyable que cela puisse paraître, un grand cerf flottait. Une illusion. Tous crurent être victimes d'une dernière hallucination. Peut-être même était-il déjà mort sans le savoir.
« Zizo !»
hurla une voix qui paraissait sortie du paradis, au-dessus d'eux. Il n'y avait pourtant rien au-dessus d'eux, rien que le vide, la brume sur le fleuve et ce cerf-volant.
« Alix ! Sabi ! Zizo ! Tenez bon !»
cria encore la voix. Les molosses s'attaquèrent à ce moment précis. Plus de 30 chiens s'élancèrent dans le même assaut, bien décidés cette fois à ne faire aucun quartier. Les premiers furent fauchés avant même qu'ils aient pu franchir 5 mètres. Une flèche en plein poitrail. Dans la seconde qui suivit, Une salve de flèches enflammées transperça le ciel pour s'échouer sur les quais et former un rideau de feu et de fumée entre les 6 fugitifs et la meute sauvage. La brume sur la Seine s'écarta enfin, fendue par une masse immense. Incrédules, ébahis, les 3 couples, se serrant plus fort que jamais, ne savaient plus où donner de la tête. Que regarder en premier? L'œil d'Horus sur la coque de l'Albatros? Le drapeau du grand cerf accroché au grand mât? Agnel dans la hune agitant ses longs bras? Novak, Hélios et les 3 autres soldats, arc et arbalète en main? Braza à la barre? Osman et Leonarda, main dans la main? Ou Solario, tout sourire, serrant entre ses bras un étrange petit garçon qu'il ne connaissait pas et qui paraissait, aussi impossible que ce soit, avoir 4 ans de moins qu'eux? Sabine fut la première à attraper l'amarre lancée par Solario.
« Eh bien, c'est pas trop tôt. J'espère que vous rapportez du vin australien, du jus de noix de coco ou du lait de chameau, parce qu'on va avoir beaucoup de choses à arroser au nouveau château. »